Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted está escuchando Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Odessa, elle a ce qui fait l'une des caractéristiques, selon moi, d'Odessa.
L'influence des Français ici à Odessa est immense.
C'est la qualité des Odessites.
C'est Odessa poétique.
C'est un port.
Odessa théâtral.
Donc c'est une ville qui est ouverte sur le monde.
Une ville des chanteurs, des écrivains. L'histoire est très riche.
Il y a des lieux sur Terre qui convoquent tout de suite un imaginaire puissant. Il y a des villes dont le nom possède un fort pouvoir d'évocation poétique. Odessa en fait assurément partie, encore aujourd'hui. Même si l'Ukraine, le pays auquel cette Marseille slave appartient, est encore en guerre larvée à l'Est. On dit ici souvent qu'on n'est pas en Ukraine, mais d'Odessa. Ah, il y a des si, il y a des donc. Il y a aussi des silences à Odessa que nous allons sonder en entamant cette quatrième étape de notre voyage estival planétaire au sein du réseau des alliances françaises.
Terre d'Alliance, Alexandre
Hérault,
sur France Inter.
Et l'alliance dans tout ça, me direz-vous ? Elle occupe là-bas une fonction et a une présence d'autant plus évidente et marquée que le français appartient solidement au passé de cette ville jeune, fondée en 1794 par deux illustres compatriotes, un descendant du cardinal de Richelieu qui en fut le premier gouverneur, et son successeur, le colonel français, puis général d'Empire russe, Alexandre-Louis Andreau de Langeron. À mon arrivée, à la fin de l'hiver dernier, je n'avais pas repéré la statue de ce dernier. Mais en revanche, il me fut impossible de ne pas voir celle du duc de Richelieu, surplombant les fameux escaliers Potemkin sur le majestueux boulevard ombragé Primorska, à deux pas du Londonskaya, sous les acacias centenaires, au-dessus de l'agitation du port. Le Londonskaya, c'est l'hôtel mythique, au charme suranné, comme on dit dans les guides touristiques. Ah, et ils énumèrent les présences de ces prestigieux convives ayant donné leur nom à des suites luxueuses. Tchekhov, Stevenson, Mayakovsky, Aragon ou Elsa, ou plus près de nous, Marcello Mastroianni. Après une courte nuit, la découverte de la cité envoûtante où séjourna aussi Pouchkine pouvait commencer. Le nouveau directeur de l'Alliance française, Pascal Fourneau, m'attendait au petit matin pour me livrer ma feuille de route.
Ah, bien dormi ?
Pas mal. Réveillé par... par les chats.
C'est vrai ? Sur le balcon ?
Dans la cour.
Magnifique. Donc là, nous prenons la direction de l'Opéra. Nous attend le vice-président.
Le vice-président, précisons-le, de l'Alliance française.
Voilà, exactement. Qui s'appelle Vladislav Bezoutsky, et qui a grandement contribué à ce qu'un artiste français soit le premier français à jouer à l'Opéra depuis la création de l'Alliance française en 1992.
Création de l'Alliance française, ici, à Odessa.
Voilà. Il s'appelle Bernard Struber et on ira le rencontrer dans quelques instants. Là, on va se rencontrer.
Et là, on est obligé de se frayer un chemin au milieu des chats.
Exactement. La ville aux 200 000 chats errants. Et les gens ici adorent les chats. Ça tombe bien.
Au point d'arriver à les comptabiliser.
Exactement. C'est notre vétérinaire francophone, ici installée et mariée avec une Ukrainienne, qui nous a raconté tout cela. Et on est vraiment heureux d'être ici à Odessa.
Qu'est-ce qui reste de la francophonie, Pascal Fourneau ? Question abrupte au directeur de l'Alliance française qui découvre cette ville depuis peu, depuis juste le mois de septembre.
On dit que c'est la ville ukrainienne la plus francophone et c'est normal puisque déjà, je vous le rappelle, on va fêter dans cette année, en septembre 2016, donc le 250e anniversaire de la naissance du duc de Richelieu.
Le duc de Richelieu, donc lointain parent de notre grand Richelieu, fuyant la Révolution française, se réfugie dans l'armée du tsar et va fonder cette ville, c'est ça ?
Exactement.
Et on va lui donner ce visage-là aujourd'hui.
Oui, et les Odessites en sont très fiers. Il y a ce côté français, cette francisité qui est inscrite dans l'ADN en fait de chaque Odessite, même si on peut dire qu'il n'y a pas énormément de francophones, mais ils adorent le français, ils adorent la France, ils sont fiers de cette appartenance, voilà, dans l'histoire.
La chanson d'Odessa, Take Two.
Three.
Bernard Struber, qui vient de l'Est de la France, a adopté il y a 10 ans cette ville qui a su l'accueillir et le séduire. Cet ancien rocker, multi-instrumentiste, notamment organiste de renommée internationale, est aujourd'hui jazzman facétieux à la tête d'une bande créative très active, son Jazz Tête, qui porte son patronyme en Alsace. Il compose des symphonies à jouer ou à déjouer, et rien ne l'arrête dans le domaine de l'expérimentation. Bernard voyait en Odessa un véritable terrain de jeu. Il nous accueille assis derrière cet orgue au sein de l'église presbytérienne du centre de la ville, non loin de la célèbre philharmonie et de l'orgueil national, le fameux opéra, où il a désormais ses habitudes et ses amis. Le plus cher d'entre eux est le nouveau vice-président hyperactif de l'Alliance française, Vladislav Betlewski.
Elle est entrée dans cette mélodie, hein, elle reste... Voilà.
Et c'est ce qu'on entend à l'aéroport. Et elle raconte quoi ?
La chanson ? Oui. Oh, ça parle de la mer Noire. À vrai dire, les paroles, je ne les ai pas traduites.
Alors, traduction.
Oui, les paroles de la chanson, voilà, c'est une des plus connues ici à Odessa. Et ça parle de la ville près de la mer, qui est Odessa. Et il voit cette ville, le chanteur voit cette ville dans ses rêves. Et il dit que cette ville est très chère pour lui. Il l'aime beaucoup. Voilà, c'est plutôt la chanson sur l'amour de la personne à notre ville d'Odessa.
Et j'imagine que cette chanson, beaucoup de juifs ukrainiens qui ont quitté Odessa doivent avoir ça en tête, en regrettant le temps passé.
Tout le monde qui a quitté Odessa un jour, je pense que tout le monde a un peu de nostalgie vis-à-vis de cette époque et vis-à-vis de cette mélodie qui nous accompagne toujours, comme a dit Bernard, dans les gares, dans les aéroports. Ça nous touche vraiment au cœur quand on entend cette mélodie. Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог у Черного моря. Ой, самый город Одесса у Черного моря.
Рентре bien en tête. On n'a presque pas besoin de dire où on est, Bernard Struber.
Effectivement, vous avez trouvé, vous êtes dans l'endroit mythique, l'endroit le plus beau, la fierté absolue de l'Ukraine et des Odessites, qui est l'opéra.
Et l'opéra, c'est un des plus beaux bâtiments de la ville, évidemment, de quoi se faire photographier devant quand on vient même se marier. D'ailleurs, c'est assez pratique, le palais du mariage, comme on l'appelle ici, est en face de l'opéra. Les touristes viennent aussi se faire photographier, les rendez-vous galants se prennent devant. Mais il y a des raisons objectives pour ça.
La raison objective est cette tradition, enfin la beauté baroque qui fascine les gens, l'or, l'énorme lustre, la splendeur d'un bâtiment qui avait été pendant de longues années repeint en gris du temps de l'occupation soviétique et qui a retrouvé maintenant sa couleur d'antan, son lustre.
Vladislav Betlewski ici, c'est aussi, on le dit et on en est fier, l'un des plus beaux opéras du monde.
Oui, évidemment, c'est un bâtiment qui date de 1898. Et les Odessites sont très fiers de ce bâtiment qui est une merveille.
On est dans un lieu complètement magique ici. Ici, tout le monde commence à vous connaître aussi parce que vous êtes aussi organiste, en plus d'être guitariste ou pianiste. Et là, la sauce prend.
Ici, il y a des concerts d'orgue chaque semaine, chaque samedi, chaque dimanche. Il y a aussi un orgue à l'opéra où on peut jouer devant 1000 personnes. Alors, vous savez, un organiste qui joue devant 1000 personnes, en France, il n'y en a pas.
Votre dernière prestation ici, l'an dernier pour le Festival d'Odessa où 1000 personnes étaient devant vous, mais vous étiez capable de jouer des pièces de Verdi, associées à un morceau de Nirvana ou de Metallica, qui alors là plonge dans votre passé d'ancien rocker.
Oui, c'est ça, vous parlez là de ce fameux concert à l'Opéra d'Odessa, où finalement l'idée était aussi de faire autre chose, de pas limiter l'orgue à un instrument d'accompagnement de quelques chanteurs. Très bon chanteur d'ailleurs ici. On peut dire à Odessa, les trois instruments phares seraient le piano, le violon, le chant.
En fait, oui, ça c'est la répétition de la nouvelle. C'est la nouvelle opéra qui est en train de se préparer. Il y a une grande répétition dans la salle. Ça s'appelle Élixir d'amour.
Élixir d'amour de Donizetti.
On continue notre balade au Décite en compagnie de Bernard Struber et en chemin, on va buter sur des traces d'une histoire plus contemporaine, extrêmement brûlante. Car ici, à Odessa, même si on est loin du conflit qui se passe sur les frontières à l'Est, cette guerre est dans tous les esprits. On sait qu'elle couve encore, malgré les accords de Minsk censés la contenir et signés en février 2015 grâce à la médiation de François Hollande et d'Angela Merkel. Mais on ne peut pas dire et écrire que ce drame en cours n'a pas eu d'écho physique dans cette ville à l'apparence alanguie sur la mer Noire et la triste histoire que voici allait surgir au détour d'une rue de la vieille ville.
Cette voiture qui est là,
elle
est encore là depuis le 2 mai, celle-là.
Le 2 mai 2014.
Elle est là, cette voiture.
Elle n'a pas bougé.
C'est pas évident de rappeler ce qui s'est passé, mais c'est encore dans toutes les mémoires. C'est un des sujets les plus brûlants. Il y a bientôt 2 ans, le 2 mai 2014, périssait dans la maison des syndicats, 48 partisans pro-russes. Mais ça a commencé ici. On est où, Bernard Struber, ici?
Alors ici, on est dans le centre, Prejenbrskaya et Gretchenskaya. On est devant la grande cathédrale orthodoxe. Donc on était réunis avec des supporters du club de football d'Odessa qui voulaient aller pacifiquement au terrain, au stade de football avec les supporters de Kharkov pour défiler ensemble. Et subitement, au bout de la rue Gretchenskaya, en face du théâtre russe, on a entendu une clameur, quoi, et des... Bon, c'est Russes qui ont débarqué, on ne sait pas d'où, et qui se sont protégés derrière des grosses poubelles, et qui commençaient à déterrer des pavés, à lancer, évidemment, et puis, bon, ça a été l'affrontement. Et... Il y avait quelques coups de feu, oui. Il y avait un policier qui courait de temps en temps avec un petit extincteur pour éteindre les cocktails Molotov. Ici, par exemple, on voit encore le souvenir d'un Ukrainien qui a été tué, là. Voilà.
Il y a une petite couronne.
Voilà, c'est ça. Et voilà, donc, j'étais en direct, j'ai assisté à cette chose-là.
Bernard Struber n'était pas le seul à avoir assisté à ce massacre qu'on nomme parfois dans les milieux pro-russes l'Oradour sur Glane ukrainien et dont on a commémoré dans la douleur le 2e anniversaire cette année. Cette guerre en Ukraine, rappelons-le, a déjà fait plus d'une dizaine de milliers de victimes. C'est le plus meurtrier conflit sur le continent européen depuis les guerres de l'ex-Yougoslavie des années 90. Comment résumer ce conflit sans verser dans la géopolitique ardue? Pour le comprendre, il faut avoir intégré qu'en Ukraine, il n'y a pas que des Ukrainiens. Il y a aussi une population d'origine russe à l'époque soviétique. Les deux peuples se sont mélangés, notamment à l'est et au sud du pays. D'ailleurs, dans ces régions, la majorité des habitants ne parlent que le russe. Ce n'est qu'après la révolution, dite orange de 2004, qu'une grande partie du peuple ukrainien a voulu échapper à la mainmise de la Russie. Le pouvoir a alors même annoncé sa volonté de bannir le russe comme langue officielle. Les Russes d'Ukraine, qui ne parlaient pas ukrainien, se sont vus devenir des citoyens de seconde zone. C'est cette mesure qui a mis le feu aux poudres, rappelle Paul Moreira dans un de ses documentaires. Poutine, le président russe, s'est appuyé sur cette peur pour aider la population russe qui a commencé à s'armer et à combattre les deux grandes villes ukrainiennes de l'Est, Donetsk et Doubansk, qui abritaient d'ailleurs chacune une alliance française. Elles se sont soulevées. Les soldats russes ont été envoyés pour les aider. Des volontaires étrangers pro-russes d'Europe les ont rejoints. Cette chanson de Djamala, ancienne chanteuse d'opéra ukrainienne de Crimée, et appartenant à la minorité tatare massacrée et déportée par Staline, cette chanson a été composée pour rappeler au monde entier qu'une guerre ayant ses racines loin dans le passé tourmenté entre son pays et la Russie, l'ex-URSS était bien présente depuis 2 ans à l'est du pays et non loin d'Odessa, sur la mer Noire, en Crimée. C'est elle qui, aux grandes dames de Poutine, a gagné l'Eurovision au mois de mai dernier. They come to your heart. They kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
Vous êtes ici, l'Alliance française.
Sur France Inter.
Alexandre Hérault.
Au sud, dans le grand port d'Odessa, vital pour l'Ukraine.
Spéciale investigation, enquête de Paul Morera, diffusée le 1er février 2016 sur Canal+.
Les populations pro-russes commencent elles aussi à manifester. Pacifiquement pour l'instant. Mais le nouveau pouvoir de Kiev devient nerveux. Il ne peut se permettre de perdre aussi Odessa. Le nouveau gouvernement n'a pas confiance dans la police, alors il va s'appuyer sur les milices nationalistes d'Odessa, notamment le secteur droit. À Odessa, le 2 mai 2014, à peine 3 mois après la révolution, ces milices vont déraper très gravement.
Bernard Soudain.
Il y a eu des commissions indépendantes pour essayer de savoir pourquoi 48 personnes ont péri dans cet incendie, qui est encore dans toutes les mémoires et qui a été un point de crispation dans ce conflit qui dure maintenant depuis 2 ans.
Mmh, oui, oui, tout à fait. Ouais.
Vladivas Bezhdoutski, vous, le vice-président de l'Alliance française, évidemment, à l'Alliance française, on se tient un peu à distance du conflit là-haut à l'est, mais on se rend compte aussi qu'à Odessa, il y a quand même une cocotte minute qui semble un peu bouillir, que les esprits sont un peu échauffés ici aussi.
Oui, je pense que cet échauffement, c'était plutôt en 2014, le 2 mai. C'était le pic de cet échauffement. que Bernard a vécu aussi lui-même. Et moi, en sa présence aussi, j'ai participé dans tous ces événements. On a tout vu comment ça s'est passé. La majorité des gens qui habitent ici, la jeunesse, tout le monde a vu ce qui s'est passé à Donetsk. Et tout le monde, même les plus russes qu'on avait ici à Odessa en grand nombre, ils ont vu que cette confrontation qui se passe à Donetsk, ça ne rend pas la vie heureuse pour les gens qui vivent là-bas. Donc je pense qu'avec le temps, les gens ont pris conscience qu'il vaut mieux garder la paix ici et discuter sur des différentes possibilités et orientations, et même quelle direction doit prendre l'Ukraine, et ne pas se confronter avec des armes pour ne pas vivre la même histoire qui est actuellement, qui se passe à Donetsk.
Oui, et dont on ignore un peu la fin. Hein.
Donc c'est plutôt par la peur que les gens... parce que les gens ont peur de perdre la paix et aussi leur maison, leur voiture, parce qu'on a vu ce qui se passe à Donetsk, donc c'est le désordre complet. La loi ne règne pas à Donetsk, et donc même les gens qui... Pratiquement la plupart des gens ne veulent pas ça ou dire ça.
Sans aller dans le cours magistral, Bernard Struber, en face de nous, cet instrument a quelques particularités, il me semble.
Alors, c'est un instrument américain. Bon, c'est un orgue numérique. Il y a quelques vrais tuyaux, mais l'ensemble des sons, ont été échantillonnés, quoi. Évidemment, c'est pas pour les puristes, c'est pas un orgue traditionnel avec une mécanique et... Mais bon, ils ont la chance d'avoir cet instrument ici qui permet de tout jouer, quoi.
C'est le jouer, l'hymne ukrainien, c'est aussi risqué de vous aliéner une partie de la population d'Odessa, qui reste très attachée à la présence soviétique. Pardon, russe.
Écoutez, moi je suis dans un pays qui s'appelle l'Ukraine, et donc qui a son autonomie, sa particularité, ses règles, son drapeau, ses couleurs. Donc c'est normal que je joue l'hymne de ce pays.
Alexei Goncharenko, ici, on est dans un endroit que tous les Odessites connaissent, puisque le lieu s'appelle Kompot. Kompot, en français, c'est un plat particulier, des fruits mélangés. Ici, ça veut dire quoi?
Ici, c'est comme un jus de fruits, un jus de quelque chose, de fraises, par exemple, quelque chose de ce type. Et nous sommes à la rue Deribasovska, c'est la plus célèbre rue d'Odessa.
Et donc, dans ce restaurant, il est aussi connu pour avoir des sonorités très françaises. C'est-à-dire qu'on aime passer de la musique française. Je ne sais pas pourquoi, ça vient d'où ça?
Odessa, c'est la ville, la plus française ville d'Ukraine. Duc de Richelieu était notre gouverneur, le premier gouverneur d'Odessa. Et après Odessa... Il est devenu le premier ministre de la France. Et aussi le premier journal en Odessa était en français. Et beaucoup de gens de la culture française faire ici, travailler ici, visiter Odessa. Et pour nous, c'est très important.
À propos de gouverneur, le député que vous êtes, Alexei, le jeune député que vous êtes, ancien vice-président du conseil régional, beaucoup pensaient que vous auriez pu...
Pas de vice-président, mais aussi président de la conseil régional. J'étais le président de la conseil régional et après j'étais élu le membre du Parlement d'Ukraine.
Et beaucoup de gens pensaient que vous alliez être gouverneur aussi d'Odessa.
Ah, merci. J'espère un jour. Aussi, je suis président de le groupe d'amitié entre l'Ukraine et la France dans notre Parlement. Nous sommes deux coprésidents, moi et aussi femmes d'autres partis. Dans notre groupe, il y a 84 députés. C'est un des plus grands groupes d'amitié en notre Parlement. les relations entre l'Ukraine et la France est très importante pour nous, spécialement maintenant quand Monsieur le Président Hollande, Président de la République, il est très actif dans le Minsk négociation et pour nous c'est très important.
Vous parlez là des accords de Minsk qui sont plus ou moins respectés en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tout de même, Alexei, en guerre ici. Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le pense? Est-ce qu'ici à Odessa, on l'oublie?
Non, Odessa est complètement calme. Et c'est le pays ici. Mais oui, dans l'est d'Ukraine, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la guerre. Mais la guerre, pour le moment, pas active. Mais ici en Odessa, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de problème. Et si quelqu'un écoute nous, je voudrais dire bienvenue en Odessa. Et c'est une très calme ville, et pas chère ville, très intéressante pour les Français, complètement calme.
L'homme politique que vous êtes avait envie de rester optimiste.
Je reste optimiste pour 100% parce que je n'ai pas d'autre alternative.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de la corruption? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces choses-là qui sont des mécanismes qui semblent être très installés au sein de la société ukrainienne, au point que celui qui est devenu gouverneur, désolé, en fait son premier combat.
Mais le premier combat, les gens d'Ukraine, ils ont choisi la démocratie. C'est très important. La démocratie, la transparence, oui, bien sûr, la guerre, et l'invasion russe, l'occupation de Crimée, ce sont les grands problèmes. Mais notre pays est changé. Et je suis sûr qu'il y a quelques ans, vous ne pouvez pas voir beaucoup de corruption ici, beaucoup de problèmes. Je pense que tout va améliorer.
Le plat vient d'arriver. C'est le moment de le manger, sinon ça va être froid.
Ah oui, le plat est super et bon appétit.
C'est, confessons-le, une bien étrange impression d'être dans un pays en guerre sans que celle-ci ne soit apparente physiquement depuis 2 ans. Il y a aussi tant de douleurs silencieuses à Odessa et chez les Odessites. Et c'est peut-être ce contexte troublé et troublant qui avait fait que le poste à renouveler de directeur de l'Alliance française à Odessa n'avait pas reçu beaucoup de candidatures l'an dernier. Maintenant que nous avons sondé à quel point les choses sont tendues et parfois tues, nous pouvons avoir rendez-vous avec un homme qui parle de ses blessures, un personnage étonnant, nouveau professeur d'Alliance française d'Odessa, venu de la ville qui a été au centre de l'actualité avec Donetsk. Souvenons-nous.
Lundi noir à Lugansk en Ukraine, où les combats ont fait rage toute la journée. Plusieurs centaines de séparatistes ont d'abord attaqué un camp de garde frontière dans la matinée. 5 rebelles pro-russes ont été tués, plusieurs dizaines de militaires ukrainiens ont eux été blessés.
On va où là?
Alors, on va maintenant assister à un petit morceau de cours de M. Sergueï Yeromin. C'est l'ancien directeur de l'Alliance française de Lugansk qui travaille actuellement à l'Alliance française d'Odessa en tant que professeur de français.
Et pour cause, l'Alliance française de Lugansk, là-bas, à l'Est, a fermé.
On était obligé de fermer. C'était la décision de la coordination des alliances françaises. L'alliance française de Lugansk et de Donetsk sont actuellement en sommeil.
Sergueï, monsieur le professeur, vous avez préparé vos élèves?
Oui, j'ai préparé mes élèves, c'est ça, oui.
On a combien d'élèves devant nous?
Devant nous, on a 6 élèves.
C'est quel niveau?
Quel niveau? Bah, le niveau A2 plutôt.
A2,
niveau,
ça veut dire?
Ça veut dire ces élèves-là s'expriment assez librement, mais sur des sujets de base. Voilà.
C'est vrai que aux étudiants, c'est pas, surtout quand ils ont 15-16 ans, c'est pas forcément une salle de classe, le lieu pour parler de ce terrain de guerre, de ce qui se passe à l'est du pays et que vous avez vécu douloureusement, au point où l'alliance française que vous aviez fondée à Lugansk a été contrainte de fermer.
Oui, finalement, notre alliance a été créée en 1996. Donc finalement, cette année, en juillet, on devrait fêter 20 ans de la création de cette alliance. Et oui, on a été obligé de fermer notre alliance parce que à cause de cette guerre. Et finalement, moi, alors oui, comme j'ai été parmi les fondateurs de cette alliance et je suis resté comme directeur de cette alliance. Et on était parmi les alliances les plus dynamiques d'Ukraine, malgré la taille de la ville, parce que Lugansk c'est pas une grande ville. Lugansk c'est pas Odessa, par exemple, qui est vraiment une ville francophone.
Lugansk c'est quoi alors?
Lugansk c'est plutôt une ville industrielle. Post-soviétique, Lugansk, il y a une autre mentalité. Mentalité, c'est plutôt prolétarienne, vous voyez. Voilà. Et grâce à ces structures, finalement, on a réussi à proposer aux habitants de Lugansk un nouveau, on peut dire, produit tout à fait linguistique. Et finalement, ça a fonctionné bien parce que on a été obligé de suspendre finalement les activités, ayant presque 170 personnes en cours. Ce qui est assez positif comme résultat.
Les rebelles pro-russes de la région de Lugansk à nouveau frappés aujourd'hui par l'armée ukrainienne.
Nouvelle démonstration de force des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Ils ont pris d'assaut ce mardi le siège de l'administration de Lugansk.
Lundi noir à Lugansk en Ukraine.
Le bâtiment de l'administration régionale de Lugansk a par ailleurs été endommagé par une explosion.
Tonight, the Ukrainian military has reportedly conducted an air raid in the eastern city of Lugansk.
Il y aurait des morts et des blessés des deux côtés, selon le ministère de l'Intérieur.
La guerre a fait partir beaucoup de... Presque tous les professeurs sont partis et il y a beaucoup d'étudiants qui sont partis aussi.
Qui reste à Lugansk?
À Lugansk, les personnes sont obligées de rester parce qu'il y a leurs parents, qu'ils nécessitent ces soins particuliers. Mais aussi, il y a des personnes qui étaient parties avant, mais après, qui étaient rentrées après, finalement... Parce qu'aussi, on peut dire que l'accueil dans le reste d'Ukraine n'était pas toujours favorable. Ben, je pourrais vous le dire, là maintenant, depuis un an et demi, déjà, j'ai changé 4 appartements, mais je ne dis pas que je suis de Lugansk. Les Odessites ne sont pas du tout volontaires de donner leurs appartements.
Donc les gens ici, non seulement on a l'impression que cette guerre ne est peu poreuse, c'est-à-dire que les esprits ne sont pas envahis, préoccupés trop par ce qui se passe à l'Est, mais qu'en plus de ça, il y a une réaction presque de rejet de ceux qui ont pu en souffrir.
Malheureusement, c'est ça, oui. Malheureusement, c'est ça, oui. Ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison. Là, quand je suis venu à Odessa fin août, 2014, quand la guerre justement battait son plein, finalement. Et là, j'ai été vraiment étonné, impressionné. Comment peut-on vivre comme ça à Odessa, manger, se promener, etc., s'amuser quand il y avait. Parce que avant de venir, j'ai vécu quelques semaines sous les bombardements, finalement. Et voilà, donc il y avait des victimes de la population civile, et finalement, à Odessa, on n'en parlait pas du tout. Et quand on parle de Lugansk et Donetsk, on ne cite pas à haute voix, parce que là, c'est maintenant... Vraiment, on a l'impression, et c'est sûr que c'est mal vu, finalement. Pour moi, ça frôle le racisme, finalement. Le racisme, je sais pas, cette différence de région, voilà.
Vous le voyez comment, le futur de ce pays?
Le futur de ce pays, finalement, je le vois plutôt tragique, finalement. Ouais, le futur de ce pays, parce que, je ne sais pas, avec cette guerre déjà, après avec cette crise économique et politique aussi, surtout, parce que finalement, les événements de Maïdan n'ont rien changé, finalement. On peut le constater.
Tout comme la révolution orange n'avait rien changé.
Oui, mais rien n'a été changé, tout simplement. Il y a un clan qui est parti, un autre clan qui est venu, voilà. Donc, mais non, aucun changement. Donc, je sais qu'à, par exemple, il y a toujours la corruption. Il y avait toujours la corruption. Il y a maintenant la corruption. Non. C'est-à-dire que rien n'a changé à part les victimes, alors, des milliers de victimes.
imagine you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hope you die. So happy together.
If I should call you up in this time and you say you belong to me, and use my mind, imagine how the world would be. So very fine, so happy together.
Inter, Terre d'Alliance, un voyage planétaire au sein des Alliances françaises.
Rencontrons maintenant un grand francophile et un excellent francophone odessite, l'ancien président de l'Alliance française, Artiom Vosniouk. Artiom est un personnage très précieux pour l'Alliance française d'Odessa, qui, comme toutes les alliances du monde, sont des associations de droit local et donc pilotées par des comités d'administration réunissant des citoyens du pays, tous bénévoles. Plus ceux-ci sont puissants et actifs, mieux l'Alliance se portera et rayonnera. Artiom est un oligarque local respecté, mania des médias, propriétaire de plusieurs cinémas et radios, dont une diffuse beaucoup de chansons francophones. Il a fait venir à Odessa des chanteurs populaires comme Garou ou Patricia Kaas pendant sa présidence très productive. Il est hélas devenu une sorte de victime collatérale de ce conflit. À cause de ses positions jugées peut-être hâtivement trop pro-russes, il a été pour l'instant écarté de sa fonction. Pourquoi pas commencer à l'approcher, tout doucement, en lui demandant d'où venait cette passion pour notre langue.
Je ne sais pas, je me sens un peu français, un peu. Quand je viens à Paris, par exemple, il me semble que la ville natale pour moi, un peu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans l'autre vie, j'étais français, je ne sais pas. Parce que quand j'entends les chansons françaises, ça me donne la joie. Parce que de mon enfance, j'aime beaucoup Belmondo. C'est le star numéro un pour moi, Jean-Paul Belmondo. J'aime beaucoup le football français comme Platini.
Artiom Vosniouk, aujourd'hui, et c'est pas au propriétaire de plusieurs cinémas, cet homme de radio aussi que vous êtes, qui diffusait beaucoup de chansons françaises sur vos antennes, que je vais l'apprendre. C'est à Odessa, c'est bien le russe qu'on parle.
C'est la langue des Odessites parce que tout le monde parle le russe, presque tout le monde. Je ne dis pas pour 100%, mais presque tout le monde, historiquement, parle le russe. Si vous pouvez recevoir les données de statistiques, dans presque toutes les villes, grandes villes, historiquement, on parle russe. C'était historiquement. dans les générations, on pouvait aller à un cimetière et regarder en quelle langue écrit du tombeau. C'est le russe, oui, on parle russe. C'est la culture, c'est les traditions, c'est... on comprend bien sûr l'ukrainien. Je peux parler ukrainien, mais comme d'habitude, je parle russe, bien sûr. Je parlais avec les Ukrainiens en ukrainien, et je fais beaucoup pour la diffusion des chansons ukrainiennes ici, à Odessa, parce que c'est normal. Deux langues existent.
Alors après, il y en aura toujours pour reprocher qu'on ait une mainmise trop russe sur cette ville.
C'est pas comme ça, parce qu'il y a beaucoup de nationalités ici. Il y a des Russes, il y a des Ukrainiens, il y a des Juifs, il y a des Bulgares. Les Russes, c'est la langue de cette ville, parce que historiquement, on parle russe ici. C'est normal, quoi faire.
Et on traverse aujourd'hui une période qui, historiquement, est une période qui est brûlante. On a l'impression aussi d'être toujours au sein d'une cocotte minute dans ce pays, d'un pays en guerre.
Non, je suis toujours contre la guerre. Je suis personne de la paix. Je propose toujours la paix et je propose toujours la vie normale. Mais je pense qu'il ne faut pas diviser des gens par les langues. Parce que la langue, c'est la tradition, c'est la culture, c'est la langue de vos parents, de vos grands-parents, oui. Il faut vivre normalement. Il faut vivre en paix.
Mais vous êtes un homme de paix, Artyom, mais vous avez dû être inquiet le 2 mai 2014.
C'était pour moi quelque chose de terrible. C'était pour moi quelque chose qui ne peut pas placer dans ma tête. C'était toujours la tragédie. Je ne comprends pas comment on a pu faire tout ça. Hors de ça. Pour moi, c'était le choc. C'était le choc pour beaucoup de gens ici. Pour beaucoup, beaucoup de gens. C'était le choc, ce qui a passé ici. Et jusqu'à présent, il me semble qu'on n'est pas la vérité. Jusqu'à présent, il me semble comme ça.
Pour clôturer ce voyage à Odessa, notre dernière rencontre ne manquait pas de sel. Nous découvrons Christophe Lacarin au volant de son vieux 4x4 dans l'épisode de sa vie ukrainienne. Un nouveau chapitre de sa saga qu'il a vu revêtir nombre de casquettes, nombre de métiers. Le marquis bordelais qui nous accueille est aujourd'hui viticulteur sur les rives de la mer Noire, non loin d'Odessa, cette ville mystérieuse qui lui va bien.
Qu'est-ce qu'ils font là sur cette route, Christophe Lacarin ?
On bouche les trous. Ici, il n'y a pas de réparation structurelle. La réparation structurelle nécessite d'abord des investissements lourds, donc il n'y a pas assez d'argent pour des investissements lourds. Et boucher les trous donne du travail et permet de gagner de l'argent à beaucoup d'entreprises parce que les trous sont mal bouchés et donc l'année suivante il faut encore reboucher les trous. Alors que si vous faites une reconstruction très bien faite, à ce moment-là vous en avez pour 10 ans, donc vous n'avez plus d'argent à gagner.
Mais ces trous sur le pavé odessite fait partie peut-être du charme de cette ville, parce qu'il faut quand même l'avouer, Odessa a des pouvoirs, un pouvoir fabuleux d'attraction. Je suis sûr que 10 ans mais après votre arrivée ici, vous continuez à être un peu comme envoûté, magnétisé par cette ville aux nombreux mystères. Et vous faites partie un peu, Christophe Lacarin, de ceux qui aujourd'hui remplissent peut-être cette fonction qu'avait pu décrire l'écrivain Isaac Babel il y a un siècle, avec ses contes et récits d'Odessa. C'est une ville toujours assez, comment dirais-je, mystérieuse. Une ville de bandits ?
Non, je dirais pas ça. Pas du tout. C'est un port, donc c'est une ville qui est ouverte sur le monde. Ce qui fait l'une des caractéristiques, selon moi, d'Odessa, c'est la qualité des Odessites.
les Odessites permettent aux étrangers de vivre dans cette ville, de se développer, d'apporter de nouvelles idées qui seront à ce moment-là profitables à l'ensemble de la communauté d'Odessa. Et je crois que c'est cette force-là d'acceptation des différences de nationalité, d'intégration des différentes nationalités, qui est ce que nous voyons aujourd'hui, le résultat d'une ville qui, malgré l'événement tragique du 2
mai 2014,
N'a pas sombré dans la tourmente.
Qu'est-ce qui s'est passé le 2 mai 2014 dans cette ville où on a redouté le pire ?
Je n'étais pas là. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas en parler.
Tout le monde en parle.
Oui, mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé.
Et c'est vrai que 2 ans après, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est réellement passé. Orchestration, manipulation, provocation.
Certains le savent, mais les choses, pour l'instant, restent en l'état. Il y a assez de clivage dans la ville. C'est peut-être pas la peine d'en donner d'autres. Regardez en Espagne. On ne touche pas à la guerre civile espagnole. Parce qu'au nom de l'harmonie qui doit régner, eh bien, il ne s'agit pas d'une amnistie.
Mais c'est peut-être une amnésie. Une amnésie collective, c'est redoutable, surtout quand un pays aurait besoin d'une psychanalyse collective.
Claudel disait « Je sais pardonner, mais je n'oublie pas ».
Et tout le monde, justement, fait attention ici à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, à ce que l'autre penserait. Donc il y a quand même un climat, je ne parlerai pas comme certains collègues de cocotte minute, mais où on sait qu'il ne faut pas trop en faire pour que l'étincelle provoque le tourment, fatal.
Je crois qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui. Par contre, en Odessa, pour résoudre une difficulté de langage, on utilise l'humour, une sorte de pirouette, ce qui permet de ne pas rentrer dans le conflit. Et c'est vrai que le 2 mai, les Odessites sont rentrés en conflit. Le sujet est extrêmement douloureux, le sujet du 2 mai. Et aujourd'hui, nul ne veut l'évoquer.
Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться. У черного моря родная земля, где мой друг молодой лежал, обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем.
Terre d'Alliance,
France Inter.
Tierra de Alianza.
On retrouvera demain Christophe Lacarin, entre autres personnages rencontrés grâce à l'Alliance française, pour une seconde balade dans cette ville qui n'a pas fini, je l'espère, de vous intriguer. Et cette balade Odessite se termine avec cet extrait du superbe film documentaire de Michale Boganin, Odessa, Odessa. Toutes les références bibliographiques et discographiques sont sur notre page internet, sur le site franceinter.fr, une page qui contient aussi un bonus multimédia élaboré par Léa Minot, notre attachée d'émission, assistée de Rachel Chiche,
Demain, nous resterons sur les rives de la mer Noire en compagnie de l'Alliance française, dont nous remercions toute l'équipe, du directeur Pascal Fourneau et Marie-Annick Duhard, attachée de coopération à Kiev. Programmation musicale Thierry Dupin, mixage Stéphane Poitevin, à la console de diffusion Anne-Laure Cochet. Et Terre d'Alliance, c'est une série d'émissions réalisée par Bertrand Chaumeton et proposée par Alexandre Hérault en collaboration avec l'Alliance.